Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il n'est pas meilleure façon de démarrer la journée, le week-end, que tous ensemble et sur l'antenne d'RTL. Le 20 février, c'est la journée mondiale du pangolin. Et c'est pas une blague, alors comment vous dire? Bref, de 9h15 à 10h, comme chaque samedi matin dans Nous voilà bien, des infos, des conseils pratiques et de la bonne humeur. C'est parti pour le sommaire. C'est la tendance du moment. Des centaines de milliers de Français y ont déjà fait appel pour connaître certaines de leurs origines. Les tests génétiques et récréatifs sont-ils vraiment fiables? Réponse avec Guillaume Demorand, qui est journaliste à la revue française de généalogie. C'est la star de nos maisons. Il est pratique, il ne coûte pas cher. Le bicarbonate de soude est-il un produit miracle? Nicolas Palangier, qui est créateur du blog monbicarbonate.fr et auteur de Bicarbonate 2. Un concentré d'astuces, nous apprend comment l'utiliser. Surnommé injustement l'asperge du pauvre, le poireau est pourtant un légume aux nombreuses vertus. Alors comment le cuisiner? Nos papilles sont impatientes d'entendre la cuisinière, auteure et journaliste Sonia Esguignan. Ouais, enfin, on n'a pas tous le même ADN et puis c'est pas dit qu'on va tous l'aimer, hein. Bonjour Guillaume Demorand.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous ce samedi matin. Vous êtes journaliste à la revue française de généalogie qui passionne de plus en plus les Français. Alors les tests ADN généalogiques récréatifs, hein, il faut bien le préciser, ils sont plébiscités, on en offre même à Noël ou à des anniversaires. Mais de quoi il s'agit en fait?
C'est un truc sérieux, très sérieux même. Ce sont vos données génétiques, votre ADN qui est décortiqué. Alors c'est l'ADN, c'est ce qui fait que chacun de nous est un être humain pareil aux autres êtres humains, mais avec des petites différences. Par exemple, vous avez les yeux noirs, alors que votre voisine a les yeux bleus. Vous avez les cheveux bouclés, d'autres ont les cheveux lisses, un grand front, même des pieds plats, une petite bouche, des oreilles. Toutes ces caractéristiques, elles sont dues au mélange de l'ADN hérité de votre père et de votre mère. Et eux-mêmes les ont hérités de leurs propres parents. Donc l'ADN, moi je fais une petite comparaison, c'est comme un code secret qui permet de lire l'histoire de votre famille en remontant très loin dans le temps.
Donc c'est ça qu'on peut découvrir en fait, c'est une sorte de passé que l'on ignore finalement.
Alors on peut découvrir beaucoup de choses, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la généalogie. En gros, si vous achetez un kit ADN, vous obtiendrez deux choses. La première, c'est une sorte de carte géographique de vos origines anciennes. Alors là, par exemple, je vous parle, je regarde sur le site internet de l'opérateur qui m'a vendu le test, et je lis que je suis à 93,2% ouest et nord européen de la France, et en particulier du nord-ouest de la France, de la Bretagne, des Pays Noirs, et à 6,8% que je suis aussi ibère. Alors ibère, c'est une vaste région qui regroupe l'Espagne et le Portugal. Tout ça, c'est sur une très jolie carte avec des petits haricots de couleur. Ça représente les régions dont je suis censé être issu. Ça, c'est la première chose. En revanche, il y a une deuxième chose qu'on me propose et qui, pour moi, est beaucoup plus intéressante et passionnante et qui, d'ailleurs, est aussi beaucoup plus scientifique. C'est ce qu'ils appellent les correspondances ADN. Les correspondances ADN, c'est une liste de tous les gens qui, eux aussi, ont fait leur test ADN et qui partagent des minuscules petites variations génétiques avec moi. Alors, ces gens-là, on peut dire que ce sont des cousins génétiques, parfois très éloignés, car il faut remonter beaucoup de générations pour retrouver le lien de parenté, mais parfois, ce sont des cousins proches, et là, bon, c'est un petit peu plus rare.
Mais alors, vous voyez, moi, c'est ça qui me fiche la trouille. Par exemple, je l'ai fait, ce test. Et si effectivement mes origines, je dirais géographiques, me conviennent parfaitement, enfin me conviennent, en tout cas viennent nourrir une certaine satisfaction. En revanche, découvrir que j'ai des cousins à la Nouvelle-Orléans et que je peux être mise en contact avec eux, c'est quelque chose qui m'a dérangée. J'ai eu l'impression tout à coup d'être dans une sorte d'intrusion. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est tout à fait juste ce que vous dites, parce que il y a une véritable fascination, notamment par les plus jeunes générations. Parce que on donne les origines, on va dire voilà, vous avez tel pourcentage de telle région, etc.
Exactement.
Et donc c'est amusant et c'est visuel en plus. Mais la mise en relation, c'est autre chose effectivement, et c'est rechercher ensemble, c'est plus on sort du virtuel pour arriver dans le réel. C'est-à-dire qu'on va en essayer de rentrer en contact avec des cousins inconnus et de rechercher ensemble, et c'est une démarche commune, quel est le lien qui nous unit. Et moi, je trouve que ça va en même temps, c'est parallèle avec la généalogie. L'ADN dit qu'on est cousin, la généalogie, elle va nous permettre de savoir comment on est cousin. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que les pierres haricots sur une carte.
Mais dis-toi, c'est illégal en France. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi?
La raison, c'est complètement interdit. En dehors des trois cas prévus par la loi, il y a trois cas. Vous avez le droit de tester votre ADN, premièrement, dans le cadre d'une recherche scientifique. Donc, si vous êtes un scientifique, évidemment, si un ethnologue veut faire des recherches sur la génétique des populations, il a le droit de faire passer des tests ADN à qui il veut. Dans le cadre de la recherche médicale, si vous êtes atteint d'une maladie rare, votre médecin va vous diriger vers un cadre très strict dans lequel, effectivement, on va analyser votre ADN. Et troisième possibilité, ça c'est très connu, on voit ça dans tous les feuilletons, c'est dans un cadre judiciaire, c'est quand la police cherche l'ADN des gens pour retrouver des criminels. Mais en dehors de ces trois cas, c'est effectivement strictement interdit.
D'accord, mais alors justement, qu'est-ce qu'on risque si on le fait ? Par exemple, moi je l'ai fait. Qu'est-ce que je risque ?
Vous risquez une grosse amende. En théorie, c'est 3 750 euros. Mais bon, je dois vous dire que jusqu'à présent, je n'ai pas eu connaissance d'aucune poursuite pour quelqu'un qui aurait fait son test ADN.
Bah, et je vous tiens au courant.
Et pourtant, on dit que plus d'un million de Français auraient déjà fait ce test.
Oui, parce qu'en fait, ça vient des États-Unis. Hein, aujourd'hui, c'est principalement des sociétés américaines qui proposent ça.
Ça a commencé aux États-Unis. C'est une belle histoire, hein, de la démocratisation de la science. Parce qu'il y a 20 ans, vous vous rappelez, il y avait des grands mouvements pour faire analyser son génome. Enfin, c'était le défi d'il y a 20 ans, analyser son génome. Aujourd'hui, vous pouvez analyser votre génome. Alors, ce qui n'est pas le cas exactement de la généalogie génétique, mais en tout cas, c'est vraiment né aux États-Unis. C'est, il y a plusieurs entreprises qui font ça. Il n'y a pas que des Américaines. Par exemple, vous avez aussi une entreprise israélienne, vous avez des entreprises anglaises, ou en tout cas de Grande-Bretagne, et les poids lourds du secteur sont quand même américains, c'est vrai.
Bon, on va se retrouver dans un instant, j'ai encore plein de questions à vous poser, évidemment. Parce que même si on risque effectivement une très grosse amende, c'est vrai qu'on est tous tentés parfois, c'est récréatif, hein, donc on est tenté pour l'histoire, on est tenté un peu pour la légende de faire ce genre de test, combien ça coûte, comment ça se passe, est-ce que effectivement ce sont aussi des données sensibles, qu'est-ce que deviennent nos échantillons ADN, ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Le reste de l'émission, on va être dans la cuisine, hein, parce qu'on va s'occuper du bicarbonate de soude. Il paraît que ça fait des choses absolument incroyables. Et puis après, bon bah, vous n'aurez pas poireauté longtemps pour avoir des recettes sur le poireau. Vous verrez, ça sent un peu mauvais, mais c'est toujours super bon et c'est très bon pour la santé. Et on peut le cuisiner de plein de façons différentes. Mais pour l'heure, on s'intéresse à notre ADN. Notre invité donc dans cette émission qui s'appelle Guillaume Demorand, qui est journaliste à la Revue Française de Généalogie. On l'a compris, les tests généalogiques récréatifs, ils sont interdits en France. On risque une grosse amende de plus de 3000 euros. C'est proposé par des sociétés américaines. Combien ça coûte cette histoire pour savoir d'où je viens ?
Alors les prix ne cessent de baisser. On est actuellement autour de 80 euros. Avec des promotions régulièrement, que ce soit à Noël, à Pâques, autour de 50 euros. Donc c'est vraiment démocratique aujourd'hui, on peut passer un test ADN pour pas cher.
Bon, alors comment ça se déroule ?
Alors c'est ça, vous recevez chez vous, par la poste, un kit contenant une petite brosse stérile. Vous prenez cette petite brosse, vous la frottez pendant une minute sur l'intérieur de chacune de vos joues. Alors il y a une variante aussi avec un petit crachoir, ça peut être aussi de la salive qu'on met dans un petit récipient. Et une fois que c'est fait, vous mettez tout ça dans l'emballage stérile.
C'est un peu comme dans les experts, hein. Ouais.
Voilà, exactement. Et vous le renvoyez par la poste au laboratoire qui sont soit aux États-Unis, soit en Grande-Bretagne.
D'accord. Au bout de combien de temps a-t-on les résultats ?
Alors c'est assez variable, hein, parce que ça dépend des délais du laboratoire, bien sûr, qui sont à peu près 3 semaines. Mais il y a maintenant, vous savez qu'avec le Covid, la Covid-19, il y a des délais d'acheminement de la poste qui sont beaucoup plus longs. Donc il faut compter au minimum 1 mois, parfois 1 mois et demi, jusqu'à 2 mois actuellement.
D'accord, donc on prend du temps. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a les résultats par mail, hein, c'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément un courrier dans sa boîte aux lettres.
Il n'y a pas de courrier dans la boîte aux lettres, voilà. Il y a un mail que vous recevez et qui vous indique qu'il faut vous connecter sur votre espace personnel, sur le site de l'opérateur qui vous a vendu les kits, et tous les résultats sont consultables sur ce site-là, en toute sécurité d'ailleurs, parce que c'est complètement crypté, vous avez des mots de passe, etc.
D'accord. Oui, c'est comme finalement des résultats médicaux. Hein. On rentre des mots de passe, on a des codes, on a des choses, donc c'est un espace privé. Justement, c'est vrai que certains sont inquiets parce que les échantillons ADN, c'est finalement une façon de constituer un fichier. Ce sont des données sensibles. Qu'est-ce qu'ils deviennent, mes tests?
Alors, il y a deux choses. Il y a les tests ADN, vos échantillons matériels, c'est-à-dire votre salive, hein, eh bien, elle est conservée par le laboratoire qui a fait l'analyse, sauf si vous demandez expressément sa destruction. Tout ça, ça pose des vrais problèmes parce qu'on l'a vu aux États-Unis, justement, il y a une grosse entreprise américaine qui, un jour, avait besoin de sans doute un peu de monnaie, a vendu pour plusieurs milliards de dollars les données génétiques de ses clients. Ça avait fait un gros scandale à l'époque.
C'est très flippant, ça.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme Européen, il y a une espèce de paradoxe. En France, on n'a pas le droit de faire ces tests, mais on est quand même protégé par le règlement sur la protection des données personnelles européen, qui s'appelle le RGPD. Ce règlement européen vous protège. Cela, par exemple, vous donne le droit de supprimer vos données quand vous le voulez, d'empêcher qu'elles soient revendues à d'autres, ou bien qu'elles servent, par exemple, à la police américaine pour rechercher des criminels. Ça, c'est un droit absolu que vous avez d'exercer cette suppression, retirer vos données de ce site. Et paradoxalement, donc, les sociétés américaines, eh bien, elles y sont sensibles aux droits européens, car en cas de faute, elle serait lourdement sanctionnée directement. Elle se verrait interdire le marché européen. Donc, elle se conforme lorsque c'est un Français qui demande, elle s'y conforme.
Très bien. Les tests, ils permettraient, alors ça, je trouve ça très angoissant aussi, de découvrir des prédispositions pour certaines maladies. Quand je dis que c'est très angoissant, c'est que ça peut être déstabilisant. Et puis, bon, ça revient évidemment à ce que l'on se disait il y a un instant sur ces données très personnelles. C'est une réalité, ça?
C'est vrai qu'avec votre ADN, il y a des sociétés qui proposent des tests de prédiction médicale, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire que vous avez des prédispositions à tel type de cancer, de maladies cardiovasculaires ou de maladies neurodégénératives. Ce sont des charlatans. N'y croyez pas, n'achetez jamais ce genre de test. Ça ne veut rien dire. Ces tests qui servent pour la généalogie ne permettent de tester seulement que 0,2 ou 0,3% de votre génome. Donc, ça ne sert à rien pour la prédisposition médicale.
Donc, méfiance. Merci beaucoup à vous, Guillaume Demorand, de nous avoir éclairé de la sorte sur les tests donc généalogiques récréatifs. Je rappelle que vous êtes journaliste à la Revue française de généalogie et c'était super intéressant. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce samedi matin.
Merci, Flavie. À bientôt.
Formidable. Formidable.
Il paraît que c'est formidable. Le bicarbonate de soude. Nicolas Palangier nous rejoint sur l'antenne d'RTL. Bonjour Nicolas.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu sur RTL. Merci d'être avec nous ce samedi matin. Vous êtes créateur du blog monbicarbonate.fr et auteur de Bicarbonate, un concentré d'astuces sorti en poche le 11 février dernier. C'est quoi exactement le bicarbonate de soude? Ça fait un peu flipper, je trouve, comme nom.
Mais en fait, le bicarbonate de soude et le bicarbonate de sodium, on a tendance à s'imaginer que ce sont deux produits différents, mais c'est la même chose. C'est deux appellations pour un même produit.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, c'est composé d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. C'est un produit assez simple. Effectivement, on peut trouver que c'est un produit un peu barbare parfois parce que ce terme de soude, de bicarbonate de soude peut faire peur parce qu'on pense à la soude caustique. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la soude caustique et le bicarbonate n'est absolument pas corrosif, par exemple. Hein. On le trouve sous plein de noms différents aussi. On le trouve aussi sous le nom d'hydrogénocarbonate de sodium. Alors ça, c'est le nom chimique un peu scientifique. Et on le trouve aussi sous le nom de carbonate acide de sodium dans les gâteaux, par exemple. C'est ce qu'on voit dans la composition des gâteaux sur l'emballage. Et dans ce cas-là, il est, si vous voulez, c'est un additif alimentaire qui porte aussi le numéro de E500-2I. Hein. Donc, on le trouve comme ça.
Mais c'est un produit complètement naturel, on est bien d'accord, hein, Nicolas?
Alors, en fait, c'est un produit qu'on trouve à l'état naturel, aux États-Unis en particulier, dans le sous-sol. Hein, ça s'appelle la nacolite. Hein, c'est un minéral naturel. On le trouve aussi sous forme de trona aux États-Unis. Alors là, il faut le chauffer pour le faire passer ce qu'on appelle au carbonate de sodium et puis le faire repasser au bicarbonate. Mais malheureusement, en Europe, on n'a pas ces mêmes sous-sols, donc on n'a pas de nacolite et on n'a pas de trona non plus. Donc en Europe, pour faire le bicarbonate, on se sert en fait de la craie, hein, du carbonate de calcium naturel, et du sel, en fait, du sel qu'on va puiser en sous-sol, et on combine, si vous voulez, la craie et le sel GEM, en fait, et on obtient le bicarbonate sur un procédé qui s'appelle le procédé Solvay et qui remonte à la fin du 19e siècle. Et c'est fait pour la France, dans l'est de la France, hein, puisqu'on trouve dans l'est de la France à la fois le calcaire, la craie, hein, et le sel. Et ils sont présents directement sur le site de fabrication et ça permet de fabriquer le bicarbonate.
Et bien maintenant qu'on sait tout ça, on va apprendre tout ce que l'on peut faire avec, parce qu'il paraît que c'est un produit formidable, ça coûte pas cher et ça fait des choses de dingue. Et Nicolas Palanger, vous êtes là pour répondre à nos questions. Et ensuite, c'est Sonia Esguillon qui nous menacera avec son poireau. Elle va nous donner plein de bonnes recettes. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Dans un instant, c'est Sonia Esguillon qui va nous rejoindre. On va parler poireaux et puis on va parler surtout cuisine. Ça, c'est génial. Mais on peut y rester dans la cuisine d'ailleurs parce qu'on parle du bicarbonate de soude avec Nicolas Palanger, notre invité. Nicolas Palanger, dites donc, ça doit être un truc génial le bicarbonate pour créer un blog monbicarbonate.fr, pour écrire un livre bicarbonate, un concentré d'astuces, ça doit quand même vouloir dire que le produit est absolument hallucinant.
Oui, effectivement, il est tellement polyvalent qu'on n'a pas fini finalement encore d'explorer toutes ses possibilités.
Hein. Alors, c'est dingue.
Voilà, c'est vraiment très très étonnant.
Racontez-nous les usages du bicarbonate, parce que moi j'en ai chez moi, je ne sais pas trop quoi en faire en fait.
Alors le bicarbonate, il faut savoir qu'il y a le bicarbonate de deux qualités différentes qu'on trouve en magasin. Il y a le bicarbonate de qualité alimentaire et le bicarbonate technique. Donc il faut bien faire la différence entre les deux, parce que le bicarbonate de qualité alimentaire, il est d'une pureté et d'un suivi qui est calqué, si vous voulez, sur la réglementation des produits alimentaires, donc effectivement des analyses régulières, etc. etc. Donc ce bicarbonate-là, c'est celui qui est idéal justement pour la cuisine, pour les soins corporels, l'hygiène, etc. Alors que le bicarbonate technique, il faut le réserver à des usages d'entretien ménager, par exemple. Donc voilà, ça c'est une distinction assez importante. Et donc dans le domaine de la santé et de l'hygiène, par exemple, vous parliez de la brosse à dents. Effectivement, on peut le mettre un petit peu sur la brosse à dents avec un peu de dentifrice, et son pouvoir abrasif doux va permettre de blanchir les dents, mais sans les rayer. Et ça c'est très important parce que le bicarbonate ne peut pas rayer, étant donné que sa dureté est très inférieure à celle de l'émail. Hein. C'est sur une échelle de 10, la dureté du bicarbonate est à 2 ou 2,5 et la dureté de votre émail est à 4 ou 5. Donc vous voyez, vous pouvez pas rayer les dents avec le bicarbonate. C'est pareil pour les plaques vitrocéramiques, par exemple, hein, pour nettoyer les plaques vitrocéramiques. On peut, il va y avoir un effet grattant doux, mais sans rayure. Ça, c'est une des caractéristiques du bicarbonate. Alors, on peut l'utiliser aussi contre les odeurs corporelles, par exemple, parce que le bicarbonate est un bactériostatique, c'est-à-dire qu'il va bloquer le développement des bactéries qui se développent en surface de la peau, tout ça en douceur, sans agressivité, et permettant justement d'avoir ce pouvoir de neutralisation des odeurs naturelles sur la peau, mais également dans le réfrigérateur, hein, quand on met une petite de bicarbonate, par exemple.
Mais attendez, il y a un truc quand même qui est complètement fou, c'est que ça coûte pas cher. En plus, Nicolas Palanger, c'est un produit miracle qui est extrêmement abordable.
Oui, bien sûr. Alors, c'est effectivement, on le trouve dans grandes surfaces, mais aussi dans les petits magasins bio, par exemple. Ouais. Et ça coûte effectivement entre 3 et 6 euros du kilo, en fonction de la qualité, de la quantité dans laquelle il est vendu. Donc, et en fait, ce qui est formidable avec le bicarbonate, c'est que c'est un produit qui est totalement efficace, si vous voulez. C'est-à-dire que, à la différence des produits qui sont dilués dans de l'eau, par exemple, là, le bicarbonate, c'est 100% bicarbonate et 100% efficace. Donc, en fait, on en utilise très peu. Et du coup, le coût, si vous voulez, le coût d'utilisation reste effectivement très faible, très très faible.
Parce que ça peut remplacer tellement d'autres produits.
Alors, ça peut les remplacer, effectivement, et ça peut quelquefois limiter leur utilisation. Par exemple, dans la lessive, vous voyez, si vous voulez diminuer la dose de lessive qui a une incidence sur l'environnement, aussi souvent la plupart des lessives, eh bien, vous mettez un petit peu de bicarbonate et vous pouvez diviser la dose de lessive par deux, par exemple.
Hein, et sans pour autant abîmer le linge, parce qu'effectivement, ça n'est pas un produit abrasif et dangereux, quoi.
C'est même, si vous voulez, beaucoup moins agressif que la majorité des lessives, hein, même le bicarbonate. Donc, aucun danger à ce niveau-là.
Mais en fait, il en existe différentes qualités. Vous nous parliez des magasins bio. Il y a plusieurs qualités de bicarbonate.
Alors, les distinctions, c'est vraiment cette qualité qui permet ou pas une utilisation. Hein, c'est la qualité alimentaire. Donc ça, c'est le bicarbonate le plus pur et le plus analysé, si vous voulez. Il y a le bicarbonate technique qui, lui, est un petit peu un bicarbonate tout venant et donc qui ne doit pas être utilisé pour la cuisine, par exemple, ou pour les usages corporels. C'est essentiellement ça. Et alors après, il y a une petite nuance ici qui peut être intéressante, qui est la nuance de la granulométrie. Alors granulométrie, vous voyez, on imagine un petit peu ce que c'est la grosseur des grains, si vous voulez. Vous pouvez avoir du bicarbonate qui est extra fin, donc qui est presque comme du talc. Et là, c'est beaucoup plus agréable, effectivement, à mettre sur la brosse à dents. Et il y a effectivement une granulométrie qui peut être plus élevée. Et là, on peut l'acheter sous l'appellation granulométrie élevée ou gros grain. Et là, effectivement, ce sera plus abrasif pour les travaux, par exemple, pour nettoyer la céramique, par exemple.
Mais alors, il y a quelque chose en plus auquel je pense comme ça, mais c'est, vous savez, parfois, on nous dit qu'il faut l'associer avec du vinaigre blanc. Là, je parle du technique. Hein. Oui. On entend tout et son contraire. C'est quoi la réalité ? À ce sujet.
Alors, c'est vrai qu'ils vont réagir. Hein. C'est d'ailleurs une petite expérience sans danger et qui amuse beaucoup les enfants en particulier. C'est que lorsqu'on mélange le bicarbonate avec du vinaigre, il se crée une effervescence, en fait. Hein. C'est une réaction entre une base faible et un acide faible. Et on crée, si vous voulez, cette effervescence. Et le bicarbonate va libérer de l'eau, enfin va créer de l'eau et libérer du CO2 et créer ce qu'on appelle de l'acétate de sodium, hein. Et cet acétate de sodium, qui est un produit qui n'est absolument pas dangereux non plus, eh bien, il a ses propres propriétés qui n'ont pas été très explorées. Hein. Il y a des choses intéressantes, mais on n'a pas encore poussé suffisamment loin. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un produit, si vous voulez, qui n'est pas dangereux non plus, mais l'acétate de sodium peut être intéressant, par exemple, en association avec les savons dans le do-it-yourself pour favoriser l'efficacité des savons. Cette effervescence, elle peut être intéressante aussi quand on utilise le bicarbonate pour entretenir les canalisations ou déboucher les éviers, si vous voulez, par exemple, parce que cette effervescence favorise l'efficacité du bicarbonate dans certaines conditions.
Donc, c'est pas dangereux ?
Non, c'est pas dangereux. Alors, nuance, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si vous faites ça dans un récipient fermé, vous avez un dégagement gazeux et donc votre récipient, il peut être mis sous pression. Donc le récipient, il peut exploser. Alors c'est pas une explosion de type hydrocarbure dangereuse, mais il n'empêche que ça peut, si vous le mettez dans une bouteille qui est fermée, ça peut faire exploser la bouteille. D'ailleurs parfois les enfants s'amusent à faire des petites fusées, vous savez, avec du bicarbonate, et la fusée part grâce à la pression qui est créée dans la bouteille.
Vous en donnez des idées, vous ? Oui. Vous en donnez des idées aux enfants ?
À faire avec les parents, hein. Ça c'est des
idées. Toujours.
Avec les parents, bien sûr, ou avec les
parents. Merci.
Éventuellement.
Ouais, exactement. Merci beaucoup Nicolas Palangier d'avoir été notre invité. Alors je rappelle pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin avec le bicarbonate que vous avez le blog, hein, monbicarbonate.fr avec toutes ses utilisations. Et puis bicarbonate à concentrer l'astuce sorti en poche le 11 février dernier. À bientôt Nicolas sur RTL. Merci
beaucoup, Flavie.
Nous on se retrouve dans un instant. On va pas pouvoir ôter longtemps. Hein. Sonia Esguignan nous rejoint tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et ça fait quand même un petit bout de temps qu'on poireaute pour accueillir Sonia Esguignan.
C'est si bon.
J'aime tellement ma blague que je n'arrête pas de la sortir. Bonjour Sonia Esgulian.
Ben, je l'aime bien aussi Flavie. Bonjour à
Écoutez,
tous.
Moi ça me fait rigoler, je peux pas vous dire. À un moment donné, poireauter, je trouve que c'est un mot absolu. Vous savez d'où ça vient d'ailleurs quand on dit poireauter pour attendre? Ça met du temps à pousser ces trucs-là, les poireaux?
Ouais, puis je pense que c'est parce qu'ils sont bien droits, ils bougent pas, voilà, au garde à vous, ils poireautent, ils attendent.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Merci d'être avec nous Sonia. Le poireau. Alors c'est marrant, ça a un peu une mauvaise image je trouve, ça pue.
Ah bon? Ah oui, bah, non, moi je trouve pas.
Je trouve que la cuisson, c'est pas la cuisson. Parfois, le poireau à l'eau, bon, enfin, moi je trouve que ça sent mauvais. Sauf quand je le fais à la poêle avec un petit peu de beurre, un petit peu d'huile et tout, je trouve ça très bon. Mais ça fait partie de la même famille que l'oignon. C'est pour ça que c'est odorant,
oui.
Non?
Oui, c'est assez vif comme goût. Bon, bah, alors après, il y a plein de petites astuces hein, en ce moment. Où, quand vous faites cuire votre poireau, après, vous mettez... Alors, je ne sais pas si vous cuisinez au gaz ou à la vitrocéramique, mais l'avantage du gaz, c'est qu'on fait... moi, je pose après les petites lamelles d'orange quelques instants. Et ça, en brûlant, en fait, les lamelles d'orange désodorisent en quelques instants la cuisine. Oh, et ça sent terriblement bon. Voilà.
Ah, mais c'est voilà déjà la bonne idée. La bonne idée de Sonia Esgulian. De toute façon, vous en avez une à la minute, donc on va faire un petit plein. Mais c'est très bon à savoir. Dites-moi, il existe différentes variétés de poireaux? Moi, j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes.
Ben, on a l'impression. Mais en fait, il faut parler avec son petit maraîcher parce que très souvent, il y a des poireaux... déjà, il y a différentes tailles. Il y a des poireaux de gros calibre. Et par exemple, ce matin, j'ai acheté au marché des poireaux crayon. Ce sont des poireaux de tout petit calibre. Ça, c'est topissime pour les poireaux vinaigrette, je vous en parlerai tout à l'heure pour la recette. Et
d'accord.
Pour les variétés, oui, il y a des super variétés. Par exemple, il y a le poireau de créance qui a un label rouge. Et moi, dans ma région, à Lyon, il y a le fameux bleu de Solèze. C'est un poireau, en fait, dont les tiges sont vertes, mais avec des petits reflets un peu bleutés, violets. Et alors, pour la petite histoire, je suis intronisée dans la confrérie du bleu de Solèze. Donc, c'est très sérieux, cette histoire.
Madame, je vais vous appeler Lady. Lady Esgulian, dites donc.
Donc je défends le poireau avec ferveur, madame. Donc
ah oui, non, mais c'est
pas du tout ringard.
C'est pas parce que je dis qu'il pue que je dis. Ah non, mais moi je l'adore. Alors, en plus, mais j'adore le poireau, mais il a un réel intérêt nutritionnel ou pas?
Oui, alors oui, évidemment, comme beaucoup de légumes. Mais en fait, ce qui me plaît beaucoup dans le poireau, je vais vous dire, c'est que quand on achète le poireau, on peut tout utiliser. Vous savez que même si je n'étais pas, aussi branchée sur l'anti-gaspi, vraiment, avec le poireau, là, ça donne plein d'idées. Le poireau, une petite astuce pour l'acheter, il faut que les racines soient bien fraîches, bien, bien droites, bien vives, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient toutes ramollies. Et que le vert soit donc dressé, pas du tout flétri, et d'une belle couleur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on va acheter le poireau, moi j'ai l'habitude de dire qu'on utilise en fait différentes parties pour différentes recettes. La partie très haute du poireau, le vert un peu sombre du bout de l'extrémité du poireau, ça je découpe. Et je fais les bouquets garnis, c'est-à-dire que j'ai acheté en même temps sur le marché un petit peu de laurier et un petit peu de thym, et je vais mélanger avec des queues de persil, je vais ficeler tout ça, je fais plein de bouquets garnis que je vais mettre au congélateur. Donc déjà le vert de poireau, celui qui est bien rustique, bien dur, ça je m'en sers pour les bouquets garnis. Après, il y a du vert un peu plus tendre, un peu plus souple. Ça, on peut le couper en petits morceaux, faire une fondue de poireau qu'on va utiliser avec du poisson, ou on va le mettre dans une quiche, par exemple, ou dans une tarte. Et après, il y a la partie blanche, celle qu'on appelle le blanc de poireau. C'est surtout, le terme technique, c'est le fût. En fait, cette partie-là, on va l'utiliser, par exemple, pour le faire rôtir. Comme vous avez dit, on peut le faire simplement rôtir à la poêle. On peut évidemment le cuire à la vapeur ou dans l'eau pour faire les poireaux vinaigrettes.
Super. Et du coup, alors, on cuisine comment? Parce que vous disiez effectivement qu'on peut faire des fondues de poireaux, on peut faire des poireaux rôtis.
Oui.
On peut faire
alors, je voudrais,
des poireaux vapeur.
Est-ce que je peux me permettre de vous donner juste une petite astuce pour laver les poireaux? Parce que souvent, je vois les gens faire le geste à l'envers. On a l'habitude de dire que le poireau, attention, il y a souvent de la terre qui s'est glissée entre les différentes feuilles de poireaux. Alors très souvent, on se met sur sa planche et on va couper le poireau un petit peu dans la longueur, juste pas complètement jusqu'au blanc. Hein. On fend un petit peu le poireau pour permettre d'atteindre plus facilement l'intérieur des feuilles. Sauf qu'il ne faut pas pas se mettre sous le filet d'eau fraîche et de faire couler l'eau sur le poireau, parce que sinon les petits morceaux, enfin les petits cailloux, la terre va rentrer à l'intérieur du poireau. Donc il faut vraiment, en fait, dans un saladier avec un peu d'eau tiède, secouer un peu ce poireau pour que toutes les impuretés tombent au fond du saladier. Donc ça, c'est important, parce que souvent on fait le geste inverse et on trouve qu'il y a toujours de la terre dans ce fameux poireau.
Et attendez, on enlève déjà toujours la première couverture de
oui,
de
parce qu'en fait, souvent, alors d'abord parce que c'est une petite une enveloppe qui est un petit peu plus dure. Quelquefois, elle a subi, elle peut être légèrement tachée en fait par de l'eau ou autre chose. Mais on enlève en général cette partie-là. Et puis ensuite, donc, on nettoie soigneusement les poireaux. Alors pour les conserver, moi j'ai une astuce. Je les mets pas très souvent au frigo. On peut les envelopper dans du papier journal ou un torchon, et on les met si on a un petit rebord de fenêtre. Il fait pas très chaud, pas très froid, sauf s'il gèle et il fait moins 7 comme la semaine dernière, mais c'est quand même assez rare. Donc là, on peut le laisser, on peut le laisser 2-3 jours dehors, et puis on peut les faire cuire après.
Bon, alors justement, on peut le cuire de plein de façons différentes. Parce qu'on a tendance à se dire que c'est juste pour la soupe, en fait. Non, moi je trouve
que ça serait vraiment dommage de conserver ce poireau pour la soupe. Moi, je voudrais vous parler de deux recettes ce matin, parce que j'en trouve une très très rigolote, et puis une classique que je revisite avec plein de déclinaisons. La très rigolote, c'est avec le blanc de poireau. En fait, on coupe dans le blanc de poireau des tronçons qui font à peu près 3-4 cm. Et puis là, avec son pouce, on va essayer de dévider. En fait, on va faire comme un tube avec le poireau, donc on enlève la partie au centre et on va garder juste l'enveloppe du poireau. Et là, on va mettre des farces, par exemple, on peut mettre un reste de viande qu'on va hacher petit avec quelques oignons, on peut mettre une purée de légumes, et ça c'est très rigolo, on le met dans un panier vapeur et on le fait cuire comme les dim sum chinois. C'est très rigolo, on peut manger ces poireaux de façon avec des petites baguettes, etc. Et c'est amusant parce qu'on peut imaginer différentes farces pour ces petits tronçons qui sont farcis et cuits ensuite à la vapeur. Alors, deuxième idée, c'est le poireau vinaigrette. Alors, ça peut paraître comme ça ringard quand on dit poireau vinaigrette, parce qu'on s'imagine donc juste ces malheureux poireaux qui ont été cuits vapeur ou à l'eau. Alors, si on les fait cuire à l'eau, le conseil, c'est de les égoutter longuement et surtout de les rouler dans un torchon propre et de les, de les serrer légèrement, parce qu'il faut être sûr qu'ils soient bien, bien égouttés. Parce que c'est assez désagréable de manger des poireaux vinaigrettes qui ont un peu le goût d'eau. Mmh. Et en fait, après, lâchez-vous sur les vinaigrettes. Arrêtez de faire que des vinaigrettes toutes simples. Par exemple, en ce moment, c'est la saison des oranges sanguines. Dans la vinaigrette, ajoutez à la place du vinaigre un jus d'orange sanguine, ajoutez des lamelles d'orange sanguine découpées et poêlées quelques instants avec de la coriandre, quelques olives noires coupées en gros morceaux. Ou alors, vous pouvez faire une autre vinaigrette dans laquelle vous ajoutez un jaune d'œuf haché avec plein d'herbes aromatiques, des petits morceaux de haddock, etc. Lâchez-vous sur le poireau vinaigrette, il tiendra toutes ses promesses. Non mais franchement, ça paraît comme ça très ringard, mais là vous comprenez à quel point je me bats pour ce poireau que je défends bec et ongles, parce que c'est un produit formidable.
Non mais c'est génial, mais on va se lâcher sur le poireau vinaigrette. Mais non mais moi j'adore, mais si vous saviez, j'ai toujours des poireaux chez moi, mais c'est vrai que c'est parfois un peu le légume méconnu, je dirais, mais c'est votre façon d'en parler qui est absolument géniale et savoureuse, comme vos recettes de toute façon, que l'on retrouve sur votre page Instagram, Sonia Esgulian. Vraiment, c'était super intéressant. Je vous remercie, Sonia.
Merci, puis à très bientôt.
Mais oui, moi je vous fais des bisous évidemment, parce que c'est l'heure de se quitter, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Sonia Esgulian. C'est déjà la fin de Nous Voilà Bien, on a encore appris plein de choses cette semaine. Si vous voulez réécouter l'émission, le replay est disponible sur l'appli RTL. Si vous avez envie de tester la recette de Sonia, elle vous attend sur sa page Insta, mais sur nos réseaux sociaux également. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion, et à la semaine prochaine de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL, bien sûr. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.